Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission pour croquer dans la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Rendez-vous un dimanche sur deux à 17h pour évoquer autour d'un thème des livres pour enfants, petits et grands. Savez-vous que ces derniers jours, c'était la fête de la science ? Toute la semaine ont eu lieu des événements, des jeux, des conférences partout en France pour promouvoir la recherche. Et à Angers, au Grand Théâtre, sur la place du Ralliement, vient de démarrer une exposition passionnante intitulée « Trésors de science » qui s'intéresse aux expériences du 19e siècle. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'y passer, pas de panique, l'expo est ouverte jusqu'au 5 janvier. Et nous, aujourd'hui, on s'interroge sur ce à quoi servent les sciences. Au programme, des albums qui évoquent la démarche scientifique ou l'utilisation dans les enquêtes policières des dernières avancées de la science. Une biographie passionnante du plus célèbre des naturalistes et un roman palpitant de science-fiction. C'est parti!
Lorsqu'un crime ou un délit se produit, policiers ou gendarmes sont appelés sur les lieux. Qui est sur place? Pourquoi ces rubans jaunes et rouges? Que font ces hommes en combinaison?
Personne ne pénètre sur la scène du crime ou du délit sans une combinaison, des gants, des surchaussures. Une capuche et un masque couvrent aussi la tête et la bouche des gendarmes ou des policiers pour qu'aucun de leurs cheveux, aucun poil, aucun postillon de salive ne vienne polluer la scène.
C'est qu'il faut en prendre des précautions pour protéger une scène de crime. Mais au fait, comment être sûr qu'il y aura des indices?
Le principe de l'échange. Un malfaiteur laisse toujours sur les lieux où se sont passés les faits des traces de sa venue. Cheveux, empreintes, sable. Et emporte avec lui des éléments, ou indices, de son passage sur les lieux. Terre, morceaux de tissu, taches de sang. Cette règle en usage sur une scène de crime date du début du XXe siècle. Elle a été instaurée comme un principe de base par le docteur Edmond Locard, un des fondateurs de la science appliquée aux affaires criminelles.
Ah, donc si j'ai bien compris, il y en a toujours des indices. Simplement, enfin façon de parler, il faut réussir à les trouver puis à les analyser. Et qui s'en charge? La police technique et scientifique, pardi. Mais qui sont ces fins limiers?
La police technique et scientifique est composée tant de gendarmes que de policiers. Ils sont tous au service de la justice pour élucider un crime, un accident, un incendie. Pour analyser les indices prélevés sur la scène, le directeur d'enquête a à sa disposition différents laboratoires scientifiques et techniques. Il traite les empreintes digitales et génétiques, les traces de pas et de pneus, il expertise les voitures, les balles et les trajectoires de tir, les téléphones portables. Ils analysent les débris de verre, les explosifs, ainsi que les odeurs humaines.
On le comprend, le déroulement d'une enquête a beaucoup évolué depuis les aventures de Sherlock Holmes. Néanmoins, la collecte et l'analyse d'indices, le raisonnement logique et l'intérêt pour la science du détective créé par Sir Arthur Conan Doyle restent d'actualité. Et l'ouvrage passionnant
« La preuve par la science à la découverte de la police technique et scientifique »
de Michel Mirapons, édité par Actes Sud Junior.
Détaille avec pertinence l'apport central des techniques scientifiques dans la résolution d'un crime. On découvre ainsi, au fil des chapitres, comment le médecin légiste peut déterminer la cause et la date de la mort grâce à l'autopsie d'un corps, comment reconstituer le visage d'une personne à partir d'un crâne, comment un téléphone portable peut trahir un suspect, comment les empreintes digitales peuvent confondre un individu ou bien comment les enquêteurs utilisent l'ADN pour identifier un coupable. Bref, ce livre qui fourmille de détails très concrets et de précisions tout azimut assouvira sans nul doute la curiosité de ses lecteurs. Les chapitres clairs, qui mêlent encarts de lecture courts, nombreuses photos et faits divers racontés sous forme de bande dessinée, rendent la lecture captivante. À découvrir à partir de 12 ans. Mais attention, âme sensible, s'abstenir. Camille Bazbaz, Insectes.
Je suis une idée de fourmi. Je suis une idée d'être en vie. Je suis une virée de scarabée. Une petite virée en toute liberté. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. sans prison. Je suis une pensée coccinelle, une petite pensée, rien que pour elle. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Les pédales, et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai tort, je crache sur la mort.
Éclat de lys, c'est pas fini pour aujourd'hui.
La science nous permet aussi de comprendre le monde qui nous entoure. Justement, partons maintenant à la rencontre d'un jeune homme très curieux, qui s'est passionné pour les insectes, les plantes et la nature en général. Il a passé beaucoup de temps à les observer, prendre des notes dans des carnets, et il s'est posé plein de questions. Puis il a fini par élaborer des théories primordiales pour expliquer la vie sur Terre. Il s'agit de...
Charles Darwin, un album documentaire écrit par Dan Green et illustré par Rachel Katzthaler.
Paru chez Gallimard Jeunesse dans la collection Les Grandes Vies.
Charles Darwin est né en Angleterre au XIXe siècle, et comme tous les garçons bien nés, il a suivi des études, d'abord de médecine, puis de théologie, pour devenir pasteur. Mais il s'intéressait davantage aux plantes qu'à la religion.
Un jour, alors qu'il chasse des scarabées, il repère un spécimen superbe, caché sous une écorce. Comme il a déjà deux autres insectes dans chaque main, il en met un dans sa bouche.
À mon immense surprise, cette sale bestiole a projeté de l'acide dans ma gorge. Aïe !
Charles recrache l'insecte et regarde avec désespoir le troisième spécimen s'enfuir lui aussi.
Sur la recommandation d'un ami, Charles participe à une expédition scientifique pour cartographier l'Amérique du Sud. Il embarque sur le navire Beagle comme naturaliste, c'est-à-dire qu'il part pour étudier la faune et la flore. À chaque escale, Charles découvre et répertorie dans son carnet de nouvelles espèces animales et végétales. Son voyage va finalement durer 5 ans et sera capital dans ses recherches futures.
En septembre 1835, le Beagle mouille dans l'archipel des Galapagos. Au début, Charles ne trouve pas ces îles très belles. Pour lui, les 13 îlots volcaniques sont un simple empilement de lave noirâtre. Le sable noir est si brûlant que l'on peut à peine marcher dessus.
Mais très vite, il est impressionné par la diversité des espèces qu'il y rencontre, notamment par les animaux qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Curieux de découvrir comment ces créatures sont apparues dans cette région du monde si reculée, il entreprend de cartographier les îles et de rapporter des spécimens.
Charles remarque que les plantes et les animaux ressemblent à ceux qu'il a vus sur le continent, mais avec des différences notables. Il varie même d'une île à l'autre. Les créatures les plus étranges sont peut-être les tortues géantes, si grandes que l'on peut monter sur leur dos. Quand quelqu'un s'en approche, elles sifflent d'une façon menaçante.
Le gouverneur des Galapagos lui explique qu'on peut identifier l'île d'origine de chaque tortue par la forme de sa carapace.
Carapace bleue, île Isabella. Carapace verte, île Espagnola. Carapace rouge, île Pinta.
Cela donne à Charles une matière de réflexion. Pendant ses 2 années supplémentaires de voyage, il se pose des questions sur l'origine de ces espèces. Mais il ne se rend compte de l'importance des différences entre elles qu'une fois de retour en Angleterre.
Par la suite, Charles s'interroge sur les découvertes accumulées pendant son voyage. L'album fait le récit captivant des étapes de son raisonnement et explique de façon claire et vivante comment, à force de questions, d'observations et d'hypothèses, Charles Darwin a imaginé la théorie de la sélection naturelle et est devenu une figure majeure de l'histoire de la science.
Quel âge a le soleil ? C'est quoi le mur de son ?
La marmotte, elle hiberne ou elle hiverne ?
Est-ce qu'un ours polaire peut nager plus vite qu'un homme ? D'où vient le vent ?
Est-ce que les extraterrestres, ils existent ?
En voilà des questions passionnantes. Certaines sont savantes, d'autres farfelues, d'autres... je ne me les étais jamais posées. Elles sont le point de départ d'un album à la fois sérieux et amusant.
Science pas bête pour les 7 à 107 ans.
De Bertrand Fichou et Marc Beignet, illustré par Pascal Lemaître et disponible chez Bayard Jeunesse.
Les auteurs, journalistes pour Bayard Presse, consacrent une page à chaque interrogation et y répondent de façon argumentée et pédagogique. Quant aux illustrations, elles apportent souvent une touche d'humour bienvenue. Et si tu te demandes, comme moi, si les extraterrestres existent, tu liras un petit paragraphe sur les exoplanètes, celles-là même qui ont permis cette année à leurs découvreurs de remporter le prix Nobel de physique. Comme quoi, ça a du bon de se poser des questions, même les plus saugrenues. Alpha Blondie, science sans conscience.
Ça continue.
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme,
écrivait Rabelais, bien avant l'invention du bac philo. La science dans la littérature invite les lecteurs à se projeter dans un futur imaginaire un brin menaçant. La science-fiction, puisque c'est de cela qu'il s'agit, mêle ainsi suspense haletant et problématique sociétale. Car évoquer un avenir parfois très proche permet de questionner finement les enjeux du présent, et notamment les liaisons parfois dangereuses entre science et finance.
Seattle, État de Washington, États-Unis.
Keith Harrington prend une longue inspiration en essayant de ne pas laisser transparaître son stress. Aujourd'hui, l'avenir de son entreprise est en jeu. Et dans son domaine d'activité, l'erreur est souvent fatale. Il se place devant l'immense baie vitrée qui surplombe la ville, au 50e étage de la tour la plus haute de Seattle, et s'évertue à saluer chaque invité. Les sourires affables et les costumes sur mesure peinent à masquer le vrai visage de son auditoire. Tous les barons du crime de la ville ont répondu à son invitation. Il se félicite d'avoir réussi un tel exploit. Reste maintenant à les convaincre de l'importance de sa découverte et de son intérêt immense pour leur empire.
Bonsoir à tous, commence-t-il. Je vous remercie d'être venus. Nous travaillons depuis plusieurs années sur les potentialités du cerveau humain. Près de 80% de notre ADN n'est pas utilisé. Nous avons découvert le moyen d'activer une partie de cet ADN non codant. Avec notre pilule, vos hommes verront leur capacité de réaction et leur force décuplées provisoirement. L'amélioration perdure 2 heures environ. Pas d'effet secondaire, pas d'addiction. Je vous laisse imaginer le bénéfice que vous pourriez en tirer. Vous trouverez dans la chemise posée devant vous les tarifs de nos pilules. Le prix est élevé, c'est vrai, mais l'efficacité est à la hauteur de l'investissement.
Ce mystérieux Keith Harrington, fondateur de laboratoire Pharmacop, vante donc les mérites d'une nouvelle pilule développée à partir d'obscures expériences scientifiques sur l'ADN humain. Pas très joli tout ça. D'autant qu'ils s'apprêtent à les vendre aux plus offrants, c'est-à-dire des truands. Et ce médicament miracle n'est pas complètement étranger aux mésaventures d'un adolescent de 15 ans qui habite Great Falls, une bourgade perdue au fin fond de l'état du Montana.
Un bruit saccadé, répétitif, désagréable. Il me faut quelques secondes pour me rendre compte que ce sont mes dents qui claquent. J'ai froid. Pas vraiment surprenant, étant donné que je me trouve dans une petite cabane en bois à 2 mètres de hauteur et que le thermomètre ne doit pas afficher plus de 2 degrés. Cela fait des heures que je suis là, à travers les interstices que le temps a patiemment creusés entre les planches vermoulues. Je distingue la maison. Ma maison. Pourquoi je reste dans cette foutue cabane à grelotter alors qu'un lit douillet m'attend à quelques dizaines de mètres dans une chambre confortable et chauffée? Parce que j'ai la trouille. Une trouille terrible. Incapacitante. Je suis terrorisée à l'idée que les types auxquels j'ai échappé soient encore là, tapis dans l'ombre, à attendre que je quitte ma cachette. Une question lancinante ne cesse de me tourmenter. Pourquoi? Pourquoi ces types ont-ils débarqué chez nous et abattu froidement mes parents? Peut-il y avoir un lien avec la raison de notre récente dispute? Ou avec ma particularité?
Celui qui parle, c'est Thomas Handel. Oui, celui sur lequel porte...
Le dossier Handel. Un roman de David Moitet, édité par Didier Jeunesse.
Vous l'aurez compris, c'est un garçon un peu particulier, qui a un don mystérieux. Celui, par moment, d'agir et de se déplacer à la vitesse de la lumière. Pratique quand on a des tueurs aux trousses, mais pas forcément utile pour passer inaperçu et tenter de comprendre qui on est. Ce roman a le temps réuni enquête policière, quête d'identité et course contre la montre pour empêcher les projets fous d'un PDG sans scrupules. Et il réussit à faire réfléchir sur les dérives potentielles de la science quand elle tombe dans de mauvaises mains. Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui dans Éclat de livre, nous avons lu, aimé et questionné les sciences avec Science pas bête de Bertrand Fichou et Marc Beignet, illustré par Pascal Lemaître et édité par Bayard Jeunesse, à picorer dès 7 ans. Ainsi que Charles Darwin de Dan Green, illustré par Rachel Katzthaler, disponible dans la collection Les Grandes Vies de Gallimard Jeunesse, à partir de 8 ans. Également le dossier Handel, un roman de David Moitet publié par Didier Jeunesse, à dévorer dès 10 ans. Enfin, La preuve par la science, un ouvrage documentaire passionnant de Michel Mirapons, édité par Actes Sud Junior. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne comme toutes les autres sur le site internet de Radio G. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot avec la collaboration de Mao, Ondine, Solène et Florent pour les lectures d'extraits. Merci à eux. La musique du générique est le morceau Maya du groupe Yapa.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
Passez une très bonne semaine. On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour un nouveau goûter littéraire.